Wow, nous allons acclamer le Seigneur pendant que nous sommes en train d'encourager les deux grands hommes de Dieu qui nous ont édifiés pendant ces moments. Nous allons appeler M. Jérémy et le pasteur Smith. Ils vont passer devant pendant que nous sommes en train d'acclamer pour le Seigneur. Wow, 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 wow. Karibou Sana, vous allez prendre place. Merci. Vous allez donner à chacun un microphone. Bonjour, pasteur Smith.
Bonjour, ma soeur.
Vous allez bien?
Très bien.
Tout est OK?
Ça va, merci. Yeah.
Très bien, monsieur Jérémy. Papa Jérémy, comment allez-vous?
Je vais bien, par la grâce de Dieu.
Wow, que Dieu soit loué. OK, nous avons entendu beaucoup pendant ces moments. Nous avons eu à être enseignés de la part du Seigneur sur les habitudes saines pour une année florissante. Alors, je voudrais savoir, pasteur Smith, permettez, je voudrais savoir en quoi est-ce que le service à l'Église est une habitude qui peut aider à faire croître, à nous faire croître en nous personnellement, à avancer notre foi et notre développement personnel.
Merci pour la question. Si je peux me permettre de répondre simplement, j'aimerais commencer par dire que le service à l'Église est un service, premièrement, que nous rendons au prochain, mais pour Dieu, et il est celui qui rémunère ce service. D'où il n'y a pas meilleur employé que le Seigneur. Et quiconque s'engage à servir le Seigneur dans son assemblée ne le fait pas d'abord pour son assemblée, mais le fait pour les seigneurs qu'il a appelés, qu'il a engagé et qui va le rémunérer.
Wow, très belle réponse. Nous allons acclamer les seigneurs pour cette réponse. Amen. Et par rapport à ça, je voudrais encore vous inviter à inscrire votre nom sur la liste de gens qui veulent inclure, donc qui veulent participer au service du Seigneur dans les commissions. Le pasteur vient de dire qu'il n'y a pas de meilleur rémunérateur que le Seigneur. Alors, courage. Qu'en est-il de la communion fraternelle, Papa Jérémy? En quoi voilà. Est-ce que c'est une meilleure habitude, une bonne habitude?
Merci. Alors, merci beaucoup, Pasteur Smith, pour ces mots de sagesse. Il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur. Pour la communion fraternelle, je crois sincèrement, après avoir lu les Écritures, que la communion fraternelle est le contexte dans lequel notre service à Dieu trouve son efficacité. Parce que déjà, dès le début, Dieu, quand il nous crée, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. C'est vrai qu'on parle de ces versets rien que pour le mariage, mais je vois son contexte est plus grand, où Adam n'était pas vraiment capable de tout faire de lui-même, que Dieu a fait quoi? Il a créé une aide semblable. Et c'est dans cette communion, dans cette synergie entre les deux, que le travail pour lequel Dieu a appelé Adam trouve vraiment son efficacité et est bien fait. Et c'est la même chose pour nous ici à l'Église. Quand Dieu nous appelle, il nous a créés avec des dons différents, des capacités différentes, des backgrounds différents, des façons que certains sont très bons peut-être à lire les Écritures et à prêcher, d'autres sont bons dans l'organisation. Mais c'est seulement quand nous communions ensemble, quand nous vivons ensemble, quand nous partageons, quand nous mettons ces efforts ensemble, que notre service devient plus efficace vraiment, et pour la gloire de Dieu. Mais aussi, la communion fraternelle est l'un de nos plus grands témoignages en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est dans cette communion fraternelle, quand nous sommes unis pour un même objectif qui est de servir Dieu, de le glorifier, que le monde sait voir que réellement nous sommes des disciples. Jésus l'a dit, c'est dans cette communion fraternelle que nous grandissons aussi dans des habitudes comme l'amour, parce qu'on ne peut pas aimer en isolation, n'est-ce pas? L'amour ne se vit pas dans l'isolation, l'amour se vit toujours avec les autres, l'amour a besoin d'un sujet et d'un objet. La phrase « j'aime », elle est incomplète, il faut toujours ajouter quoi? Un objet, n'est-ce pas? « J'aime ma femme ». L'amour a toujours besoin d'un sujet et d'un objet. Et c'est dans la communion fraternelle que nous grandissons aussi, dans notre amour, dans l'humilité, dans la soumission. Et une dernière chose que je voudrais dire à propos de la communion, c'est que même les dieux que nous servons, est une communauté de personnes, les Pères, les Fils, les Saint-Esprit, qui sont également Dieu, mais qui agissent aussi en synergie et qui s'aiment d'éternité en éternité. Voilà, je vais m'arrêter là pour que nous ne puissions pas prendre beaucoup de temps.
Merci beaucoup. Merci, Papa Jérémy, pour ces réponses. Avant de continuer, je voudrais vous signaler que nous avons commencé ces panels qui a pour objectif de répondre à toutes nos questions que nous nous sommes posées peut-être pendant la série. Et nous avons l'occasion de pouvoir entendre ce que Dieu en pense. Ok, je remercie d'abord tous ceux-là qui ont reçu le message de la part du MJC et qui ont posé leurs questions. Et ce matin, cet après-midi, nous avons l'honneur d'avoir les deux grands hommes et Dieu qui nous ont servi pendant ce moment et qui vont répondre à toutes nos préoccupations. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Ok, nous avons 10 questions qui vont être répondues par Papa Jérémy et par le pasteur Smith. La première question est celle-ci. Une habitude, on peut la changer, cette question a été mal posée. Permettez-moi de la changer. Une habitude, on ne peut pas la changer, mais on la remplace, dit-on. Ok, je pense que c'est ça. Comment remplacer pratiquement une habitude longtemps acquise et trouver plaisir exactement dans la nouvelle? Par exemple, je ne vis pas une vie de prière, mais je m'engage à commencer. Comment y arriver pratiquement et me sentir toujours dans le besoin d'y demeurer? Pasteur Smith?
Laisser le pasteur Jérémy commencer.
Je voulais bien que ce soit lui qui commence. Ouais, je viens tout juste de parler. Je vais être très bref. Je vais dire que pour changer une habitude, pour adopter une nouvelle habitude, on a eu beaucoup de enseignements de la part du pasteur Smith qui l'a dit. Il a parlé d'une contrainte, n'est-ce pas? Que quand il y a une contrainte, nous sommes obligés de changer, si je peux dire, obligés. Et certaines contraintes peuvent être de nouvelles responsabilités. Ça peut être... En fait, la grâce de Dieu vient avec une responsabilité. Parce que si tu l'as expérimenté, ça veut dire que tu es responsable de marcher selon ce à quoi la grâce de Dieu t'appelle. Mais aussi pour aller plus dans des choses pratiques, il y a aussi la récompense. Quand on cherche quelque chose, quand on cherche à atteindre quelque chose, on doit changer sa routine. On ne peut pas avoir un résultat différent si on continue toujours dans la même routine. On est obligé de changer notre routine. Mais maintenant, pour des questions plus spirituelles, moi j'ai pris 3 degrés qui normalement nous amènent à remplacer nos habitudes. Le premier degré, c'est le degré des objectifs. Quand on a des nouveaux objectifs, c'est ça ce que je suis en train de parler des récompenses. Quand on a des nouveaux objectifs, on change d'habitude. N'est-ce pas? Nouvelle contrainte, c'est un objectif aussi. Ça peut être le cas d'aujourd'hui, quelqu'un est célibataire, après il est marié. Il y a des choses qui changent. Certaines habitudes doivent changer pour que le mariage puisse marcher. Il y a aussi le degré d'une nouvelle identité. J'en avais parlé dans mon message, le deuxième message, que quand on a changé son identité, quand on est averti de qui on est, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais il y a un troisième degré dont je n'avais pas parlé, c'est le degré des affections. Des affections. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on agit en fonction de cet amour-là. Même Jésus a dit que si vous m'aimez, vous allez faire quoi? Vous allez obéir à ce que j'ai dit. Et je sais que le salut réorganise les désirs de nos cœurs. Il change les affections de nos cœurs de manière à ce que les désirs de nos cœurs, bien que nous luttons contre les péchés, les tentations, le désir de nos cœurs est toujours de faire quoi? D'obéir au maître. L'affection. Quand tu aimes Dieu, tu changes tes habitudes. Quand j'aime ma femme, je change mes habitudes en fonction de mon amour pour elle. Je cherche à communiquer avec elle, je cherche à la servir, je cherche à passer du temps avec elle. Les degrés des affections nous amène aussi à changer nos habitudes. Je vais laisser au pasteur Smith l'opportunité de dire quelque chose.
Merci beaucoup, Papa Jérémy. Nous sentons que Madame est bel et bien l'objet de votre amour. Vous ne ratez aucune occasion de la citer, hein? Alors, je suis parfaitement d'accord avec le pasteur, avec Papa Jérémy sur le 3 degrés. Et j'aimerais quand même ajouter une chose. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, premièrement. C'est comme il a dit, se mettre en tête de ce que nous devons attendre de cette nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, une bonne comme une mauvaise habitude, est une sémence. Mais la question qui se pose, sommes-nous prêts à manger le fruit de l'habitude que l'on sème aujourd'hui? Si nous ne sommes pas prêts à s'aimer, à manger le fruit de la mauvaise habitude qu'on en sème aujourd'hui, alors nous trouverons dans cela une très bonne raison de la changer. Qui ne veut pas subir le fléau de la correction ou la douleur de la correction doit s'abstenir de toute transgression. Je répète, qui ne veut pas manger le fruit de la correction doit s'abstenir de la transgression. C'est important. Mais aussi, Paul dit encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je suis d'accord avec le pasteur Jérémy, mais j'aimerais ajouter pour dire que l'environnement, ceux qui nous entourent, nous influencent tant dans le bon que dans le mal. S'il nous met en garde contre la mauvaise compagnie, il sous-entend que nous devons passer plus de temps avec cette compagnie qu'on estime bonne. Si je veux développer un amour profond pour de nouvelles habitudes, je dois m'entourer des gens ou de personnes qui aiment cette nouvelle habitude que je travaille à développer par la contrainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je n'aime pas étudier, que je m'entoure des Chickson, je finirai par aimer les études, parce que je serai poussé par ce qu'on appelle l'émulation. Je voudrais faire comme eux, afin d'être accepté, là même la question d'identité, et cela nous facilite un peu les choses. Le plus difficile dans la vie de prière, pour revenir à ce cas d'espèce, c'est qu'il est plus difficile de développer une vie de prière quand on est seul. Mais quand on travaille à développer une vie de prière affectée par ceux qui ont déjà cette vie de prière, le voyage devient plaisant. Pourquoi? Parce que quand on a l'impression de se fatiguer et de ne pas avancer, ceux qui ont une certaine expérience vous diront « Tu n'es pas très loin, ça a toujours été comme ça, et courage !» Il est plus facile d'écouter le conseil d'un homme qui est passé par là avant nous, parce que par son expérience, il nous exhorte et nous encourage à continuer. Alors comment, de manière pratique, s'entourer des personnes qui peuvent nous influencer dans ce sens, mais aussi, ce serait une chimère que de penser que nous aimerons toujours les nouvelles habitudes. Nous n'aimerons pas toujours les nouvelles habitudes. Pour ceux qui ont déjà été sous le fait de la drogue, ou l'influence de la drogue, quand on veut aller en cure de désintox, on est zélé, on veut y aller, mais après que la cure est commencée, le souhait du drogué est de fuir, de partir de là. Mais le médecin aguerri sait qu'il va souffrir pendant un temps, après quoi il pourra nous remercier. Cela va de soi avec les bonnes habitudes qu'on veut développer. On ne peut pas changer, comme le disait le papa Jérémy, on ne peut pas changer une habitude acquise longtemps en très peu de temps. Il est important de s'accorder de la patience, car cela est salutaire. Merci.
Merci beaucoup. Nous allons passer directement à la deuxième question. Comment vaincre pratiquement la force qui nous attire vers la mauvaise habitude? Qui va être le premier?
Ah, il a sauté dessus, hein?
Le pasteur Smith sera le premier.
Bon, on peut commencer par vous, pasteur.
Merci. Merci de trancher cette affaire. Parce que lui, il a fait ça, moi j'étais sur le point de faire ça. Alors, comment vaincre cette habitude? Moi, j'aime bien ce que la Bible dit. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La question n'est pas ce que je dois faire pour vaincre, quelle est la force que je dois employer. Paul dit à Timothée, puise dans la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Parfois, le plus difficile pour le chrétien, c'est de dire à Dieu, je m'abandonne à toi, aide-moi à sortir de cette habitude. Nous n'arrivons pas à expérimenter la fidélité de Dieu parce que nous ne l'invitons pas dans chaque cas d'espèce de notre vie. Nous pensons que Dieu n'est disponible que comme un coup d'eau. On ne va pas le voir quand on a une panne d'essence. Christ, lui, contrairement au coup d'eau, il n'a pas une spécialité en termes de domaine. Sinon, les cas impossibles. Oui. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est puiser dans la force que nous avons en Jésus. Jésus lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il faudrait que je vous donne un tas de principes pour vaincre, ce serait faux. Mais de manière pratique, comment vaincre? Un, identifions d'abord cette mauvaise habitude. Deux, privons-nous de cette mauvaise habitude. Prenons un cas d'espèce encore, la pornographie, une mauvaise habitude. Ok? Comment vaincre la mauvaise habitude? Je prie, je jeûne, je cherche Dieu, je lis ma Bible, je m'entoure de bonnes personnes et après, tu fais ce que la Bible dit, tu fuis. Lorsqu'il y a pornographie à la télé, tu prends ta télécommande, tu éteins. Quelqu'un regarde ton voisin. Il a dit? J'ai dit tu éteins. Tu t'élèves. Lorsque ton téléphone devient pour toi une occasion de chute, si tu n'arrives pas à le dompter, tu l'offres et tu t'achètes une belle pierre noire. C'est ça, assujettir son corps.
Amen.
Je crois que je peux m'arrêter.
Oui, il a dit tout ce que j'avais écrit ici.
Non.
Ah oui, si je peux vous dire ce que j'ai dit, comment vaincre pratiquement la force qui nous attire vers la mauvaise habitude, je dois toujours nous rappeler que la victoire a déjà été remportée.
Amen.
Amen. Nous avons parlé, j'ai donné l'illustration dans mon deuxième message d'un film où il y avait une bataille qui se faisait à l'extérieur, mais il y avait aussi une bataille qui se faisait à l'intérieur. Mm-hmm. Et c'est là que Christ l'a déjà vaincu. Des fois, nous nous attaquons aux effets, mais pas à la source.
Amen.
Et nous croyons que la seule personne qui a vaincu les péchés et les mal, c'est Christ qui a été crucifié à la croix et qui a dit que tout est accompli. Amen.
Amen.
Et donc, comme le pasteur Smith l'a dit, le même Christ nous a dit que demeurez en moi et vous porterez quoi? Des fruits. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la première étape, si tu veux vaincre une mauvaise habitude, c'est de reconnaître d'abord que toi-même, tu n'as aucune force pour t'en sortir. Et de reconnaître que seul le Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et après, il va te changer, il va te transformer. Et pratiquement, alors, comme le pasteur l'a dit, j'ai parlé des facteurs extérieurs. Les facteurs extérieurs, c'est la place. J'ai parlé du moment, j'ai parlé des personnes. Nous venons encore de les dire ici. Il y a toujours un endroit où on se retrouve et on sombre dans des mauvaises habitudes. Ça peut être sous la douche, ça peut être tard, le soir, au lit. Ça peut être un moment où on se sent frustré. Et ça peut être quand on est entouré de mauvaises personnes, comme on vient encore de le dire ici. Et donc c'est là, parce que quand Christ entre dans ta vie, il change tes motivations. Tu cherches à l'honorer avant tout. Donc déjà la motivation, elle est là. Quand tu as reçu Christ, il change tes motivations. Et à partir de cette motivation de vouloir plaire à Christ, tu vas changer les places où tu vas. Et même les places qui étaient pour toi des places de défaite seront des places de victoire. J'ai un exemple, j'ai vécu avec, nous avons vécu seul dans une maison, nous étions des célibataires. Et la douche, c'est un endroit vraiment où il y a beaucoup de tentations pour les garçons, soyons francs. Mais ce qui est arrivé, c'est que le matin, on attendait toujours, quand l'un d'entre nous est dans la douche, il amène son téléphone, il met une chanson de louange, et on l'attend, il est en train de se baigner, il est là, I surrender, sous la douche. Pourquoi? Parce qu'il est en train de transformer cet endroit de défaite en quoi? En endroit de victoire. Il est en train de soumettre toutes les tentations auxquelles il fait face là-bas à Dieu. Ça peut aussi arriver pour les soirs, ainsi de suite. Dormez tôt. Les moments où vous êtes seul, quand Christ vous a transformé, vous aurez toujours tendance à vous tourner vers sa parole, vers lui, même quand vous êtes seul. Amen.
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 Est-ce que nous sommes toujours là? Ok. Troisième question. Un cas d'espèce. Deux points. Donc c'était sérieux. Je travaille dans une organisation et là, les gens ont l'habitude de détourner des fonds, c'est sûr, parce que le salaire ne permet pas de nouer les deux bouts du mois. Et je trouve aussi que c'est le cas pour moi aussi. Donc, son salaire ne permet pas de nouer les deux bouts du mois. La facilité de tomber dans cette habitude s'est présente. Comment arriver à ne pas se corrompre tout en sachant qu'on est dans le besoin et cela est déjà une habitude ancrée dans le fonctionnement du système? Qui va répondre en premier? Ok, allons-y avec...
Bon, je vais être bref. Hein.
Papa,
c'est compliqué. Hein. Nous sommes dans un contexte difficile, n'est-ce pas? Où, en général, beaucoup de nos institutions ne sont pas moralement, comment dire, blancs. Hein? Ouais. Mais il y a une chose dont on doit se rappeler quand il en vient au travail. La première chose, c'est que tous les boulots que nous avons, tous les boulots que nous cherchons, ne sont que des ressources. Et Dieu doit toujours être notre source. Ça, c'est une première chose. Enfin, quand j'étais encore en train d'apprendre des choses sur la Bible, la formation pastorale, si on peut dire, l'un des premiers principes qu'on nous a appris, c'est de dépendre de Dieu. La dépendance de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait déjà que je ne dépends pas que de mon travail. Ma première source de provision, de protection, de tout ce dont j'ai besoin, c'est qui? C'est Dieu. Ça, c'est une première chose. Le pasteur Smith a aussi parlé de quand on adopte de nouvelles habitudes, il faut nous préparer à souffrir. Il faut nous préparer à souffrir. Et je vais revenir là-dessus parce que quand on devient chrétien, on est appelé à faire des choix qui vont à l'encontre de toute la logique humaine, nature humaine. On ne comprend pas comment ce monsieur a pu quitter une aussi grande position. Pourquoi? C'est parce que quand tu fais l'expérience de Christ, tu vas chercher à l'honorer avant tout et de croire que Dieu est ta première source de provision. Et la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, je pense, je ne me rappelle plus du verset, que sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Pour la vie et la piété. Pierre a fait cette distinction-là. Ça veut dire que non seulement Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans notre sanctification, mais il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour tous les autres besoins. Alors quand il vient au travail, moi j'ai toujours fait une prière. C'est une prière qui se trouve aussi dans la Bible, dans les psaumes 90, les derniers versets où on dit « Seigneur, affermis le travail de nos mains ». Ça veut dire qu'avant de prendre n'importe quel boulot, je me pose toujours la question, à Dieu, est-ce que ce travail est réellement l'endroit où tu veux que je puisse aller? Est-ce que, en me retrouvant dans cet environnement, je ne vais pas me retrouver en train de compromettre mes valeurs chrétiennes? Seigneur, affermis le travail de mes mains. Si je trouve un travail, il faut que ce soit toi qui le pourvoie pour moi, parce que tu es ma source. Tu es ma source. Sa divine puissance nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Les chrétiens devaient être les meilleurs entrepreneurs. Les meilleurs entrepreneurs. Parce que Dieu nous a révélé tellement de choses dans les Écritures qui nous équipent à utiliser les potentiels qu'il nous fait découvrir à travers les salis, à travers les discipulats, ainsi de suite. Je vous laisse continuer. Je m'arrête là.
Il est si captivant que j'avais envie de le laisser poursuivre. Mais pendant qu'il était en train de parler, je me suis souvenu que pendant le séminaire exceptionnel, nous avions mis l'accent sur le fait que nous avions toujours le choix. Les options peuvent être limitées, mais nous aurons et avons toujours le choix. Je tiens à le répéter, les options pourront être limitées, mais nous avons et aurons toujours le choix. Toujours. La précision sur le salaire n'est pas décent, c'est bien. Quand on constate un problème, on peut fuir ce problème, on peut éviter ce travail, on peut démissionner de ce travail, tout comme on peut demander à ce que le Seigneur pourvoie à un nouvel emploi. La question qui se pose, pourquoi rester là où je suis, par exemple, contraint à me compromettre? Et la Bible dit, en parlant de Daniel, qu'il résolut de ne pas se souiller. J'aimerais dire à ce frère ou à cette sœur,
je vous exhorte à résoudre dans votre cœur de ne pas vous souiller, parce que vous avez le choix. Pendant que vous êtes persécuté à votre lieu de travail à cause de votre consécration, dans l'entretemps, vous priez à ce que le Seigneur vous donne un travail plus décent où vous aurez à l'honorer sans craindre, sans craindre la tentation à la compromission. Mais aussi, j'aimerais ajouter que le fait d'être pasteur, gérant une église ou la comptabilité, ne nous épargne pas de la tentation de la fraude. Ce qui veut dire qu'on aura toujours de besoin. Alors, comptons sur les seigneurs, mais efforçons-nous de vivre à la limite de ce que le Seigneur nous permet d'avoir. À moins que votre foi ne vous dise le contraire. Si votre foi vous pousse à vivre au-delà de vos revenus, alors quand ça deviendra compliqué, vous ne direz pas que là où je travaille, il ne me donne pas suffisamment. Vous direz que le Dieu en qui j'ai cru me fait attendre le temps que la rémunération n'arrive. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et il prend soin de nous, n'est-ce pas? Alors j'exhorte cette personne à camper sur ses positions. Il y a un prix à payer pour la compromission et nous ne devons pas faire des difficultés sociales des raisons de notre compromission, de notre chute. Rien ne peut justifier le péché, rien, même pas la mort. Que Dieu vous bénisse.
Wow. Amen. Merci, c'est une très bonne réponse. Passons à la quatrième question. Et à celle-ci, c'est le pasteur, c'est papa Jérémy qui va répondre.
Merci.
Jeûner. Quelles sont les circonstances où il faut absolument jeûner pour obtenir exaucement à sa prière? Est-ce qu'il y a des circonstances particulières où la prière sous jeûne est une condition d'exaucement de nos prières?
Wow, très bonne question. Je pense qu'il y a un passage où Jésus envoie ses disciples chasser des démons, n'est-ce pas? J'ai un peu oublié. Vous allez me rappeler. Enfin, vous allez nous rappeler. Et ils sont revenus parce qu'ils avaient échoué. Il a dit que celui-ci a besoin de prières et de jeûne. D'autres passages comme les Béatitudes où Jésus dit « Quand vous jeûnez », ça veut dire que lui, il sait qu'un disciple doit jeûner. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit pousser quelqu'un qui se dit disciple, n'est-ce pas? Il dit « Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les pharisiens qui ont un visage un peu comme ça, n'est-ce pas? » Je suis en train de paraphraser. Ça veut dire que toute personne qui est disciple, il arrivera des moments où nous serons obligés de faire quoi? De jeûner. À un moment, on a demandé à Jésus, pourquoi tes disciples ne sont pas en train de jeûner comme ceux des gens? Et il a dit que, est-ce que l'époux, je pense, l'épouse, est-ce qu'elle elle va...
L'ami de l'époux ne peut jeûner pendant que l'époux est avec
lui. Exactement, quand il est avec lui. Mais maintenant qu'il n'est pas là, comment nous voulons rester plus en communion avec lui? Le jeûne est parmi vraiment les choses efficaces qui nous connectent à Dieu d'une manière que nous ne le sommes pas. D'habitude, dans les prières habituelles. Il y a aussi des circonstances qui nous amènent à jeûner, prier avec jeûne. Et je vais vous donner quelques exemples bibliques. Dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 3, il y a le roi Josaphat qui est submergé par beaucoup d'ennemis, n'est-ce pas? Il est submergé par beaucoup d'ennemis et la Bible dit au verset 3 qu'il a appelé son peuple au jeûne afin qu'ensemble ils puissent faire quoi? Ils puissent chercher Dieu. Quand on se sent submergé, ce sont des moments où on est appelé à faire quoi? À prier plus que d'habitude, entre autres à jeûner. Il y a aussi dans Esdras chapitre 8 au verset 21. Là, c'est quand on veut entreprendre quelque chose de grand. Ici, c'est Esdras et ses compagnons qui veulent retourner à Jérusalem. Et ils ont dit au roi qui les avait lâchés que nous croyons que notre Dieu va nous protéger. Le roi leur avait proposé de leur donner une escorte. Mais eux, ils lui ont dit quoi? Nous croyons que notre Dieu va nous protéger. Si on peut projeter Esdras chapitre 8, les versets 21-23, j'aimerais qu'on les lise ensemble. Voilà, il est là. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartient. Verset suivant. Le verset suivant. Cherchant Ah, je pense que vous avez 21. Cherche, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ok. Verset suivant, 23. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il fit quoi? Il nous exauça. Ce sont des gens qui ont entrepris un voyage, quelque chose de très grand. Ils se sont dit, avant de partir, nous devons faire quoi? Nous devons nous humilier devant Dieu et gêner parce que le voyage est très long. Il y a d'autres circonstances dans Daniel. Quand on a besoin d'une plus grande révélation de Dieu, Daniel chapitre 9, Daniel avait fait une prière sous jeûne. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir plus de clarté, plus quand il veut vraiment que Dieu lui parle, une plus grande connexion avec Dieu. Et il a jeûné, il a fait une prière sous jeûne. Dans ma vie, pratiquement, je peux vous dire des grands moments où j'ai prié avec jeûne. J'ai d'abord une habitude de jeûne. Chaque semaine, j'ai une journée de jeûne. Ma femme le sait. Il y a toujours un jour de jeûne dans ma routine hebdomadaire. Un jour de jeûne. J'ai beaucoup jeûné quand j'étais en train de prier à Dieu de me montrer qui sera mon épouse. C'est une très grande entreprise. J'ai beaucoup, je ne sais pas vous dire combien de fois j'ai jeûné ou combien
Amen.
De mois.
Amen.
Parce que c'est une très grande décision. C'est la plus grande décision que vous prendrez après celle de recevoir Christ dans votre vie. Okay. Parce qu'il va influencer vos ambitions, votre ministère, ainsi de suite. Okay? Chaque début de l'année, c'est un nouveau voyage. Je prends le temps de jeûner. Même en tant qu'Église, nous avons adopté cela. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de Dieu. Nous devons reconnaître notre dépendance totale à lui. C'est pour ça que nous délaissons certaines choses pour dire que c'est toi qui es notre force réellement. Je vous laisse continuer.
Merci, Papa Jérémy. Oui, en tout cas, je suis parfaitement encore d'accord avec Papa Jérémy. Mais vous remarquerez avec moi que la plupart des textes où on parle du jeûne, il y a toujours un type de prière. Okay. Vous avez certainement fait l'école de la prière, on nous a parlé de la louange, l'adoration, les actions de grâce, l'intercession, les supplications et autres. Mais vous remarquerez que partout où il est question de jeûne, ce n'est pas généralement des prières d'action de grâce, ce n'est pas des prières de louange et d'adoration, ce soit des prières d'intercession ou des prières de supplication. Alors pour répondre à la question, y aurait-il des circonstances qui requiert le jeûne d'abord dans la prière? Oui. Quand on tient à adresser des prières de supplication, la Bible nous encourage à associer le jeûne. Le jeûne est important quand il y a une question d'intercession, comme avec le cas de Jésus avec les apôtres, quand il descendait de la montagne de la Transfiguration. C'était un cas de prière d'intercession. Vous remarquerez que pour certains cas, Christ dit que ces démons ne partent qu'avec le jeûne et la prière. Mais y a-t-il de cas d'espèce où il faut nécessairement, ne tombons pas dans le piège de la routine. Vous remarquerez que Christ dit ce genre de démons. Quelque chose qui saute aux yeux, c'est que pour discerner la situation qui requiert le jeûne, il faut un discernement. Sans le discernement, nous nous mettrons à servir Dieu dans la routine et à utiliser les mêmes clés face aux mêmes serrures. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour les prières de supplication, pour les prières d'intercession, oui, le jeûne est très recommandé. Mais pour quelles circonstances, dans quelles circonstances jeûner, il est important d'être attentif au Saint-Esprit. Mais quand on sent que c'est pour une prière de supplication, une prière de lamentation, une prière d'intercession, une prière où on veut parler à Dieu avec son cœur, le jeûne est recommandé. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, merci pour ces réponses. Il y a la cinquième question qui dit la prière comme une habitude. La prière et le parler en langue. Qu'est-ce que la Bible en dit? Et quel appel vous lancez aux jeunes selon ce que la Bible dit, la prière et le parler en langue? Je vais commencer cette fois-ci par le pasteur Smith. Ensuite, ça sera le frère Jérémy. Que dit la Bible à propos du parler en langue et de la prière?
J'aurais aimé voir le frère qui a posé cette question. Quand je parlais de cette question à mon épouse, elle m'a dit, je crois qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément de là, qui venaient de très loin, mais qui sont quand même venus. J'aurais aimé voir le frère et le recommander à la pastorale. Qu'est-ce que la Bible en dit? Je vais être franc avec vous, la question sur la prière et le parler en langue fait partie des questions complexes en termes d'interprétation des Écritures. Pour les pentecôtistes, le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Ok? Mais est-ce que le parler en langue a un impact réel sur la prière d'un homme? Pour le pentecôtiste, oui. Parce que le pentecôtiste est convaincu, selon que Paul le dit, que celui qui parle en langue, un, il s'édifie d'abord lui-même, et deux, il adresse des actions de grâce excellentes. Mais il arrive aussi qu'on ne maîtrise pas tout le contour de la matière. D'où nos frères baptistes ont émis le souhait d'être réservés sur la question du parler en langue, sans ignorer l'action de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Sans ignorer l'action de l'esprit, les frères baptistes sont réticents. Pourquoi? Parce qu'on estime que la Bible ne nous donne pas beaucoup d'éclaircissement sur la question. Mais pour le pentecôtiste, nous prenons le 2, 3, 4 versets qui ont été donnés et on repose là-dessus pour enseigner sur ce chose. Mais nos frères baptistes sont conscients de certaines vérités, mais préfèrent le temps d'étudier encore la question, faire preuve de réticence dans la prière, afin que le Seigneur nous donne à nous, soit aux uns comme aux autres, plus de précision et de clarté. Mais cela n'est pas une question qui affecte directement notre vie de prière. Est-ce que celui qui ne prie pas en langue prie moins bien que celui qui prie en langue? Pas forcément. Est-ce que celui qui prie en langue prie mieux que celui qui prie avec intelligence? Non. L'apôtre Paul présente la situation comme quoi, si cela dépendait de lui, afin d'édifier le frère, il prierait moins en langue. Ce qui veut dire que si je dois prier et que ma prière est une expression d'égocentrisme, cette prière est nulle aux yeux du Seigneur. Mais si dans ma prière, je me contente de prier en intelligence, dans l'espoir d'édifier mon frère avec un cœur humble et sincère, alors oui, le Seigneur agrée cette prière et elle est aussi puissante que le pentecôtiste peuvent le dire au sujet de la prière dans le parler en langue. Voilà je tenais vraiment à être nuancé sur cette question, parce que nous l'étudions encore et nous prions afin que le Seigneur nous oriente davantage sur certaines questions.
Merci. Nous allons écouter maintenant l'avis d'un baptiste, comme le pasteur l'a appelé. Bienvenue, Papa Jérémy.
Merci beaucoup. Vous venez de donner une réponse très sage. Je ne sais même pas quoi ajouter. Je suis baptiste, mais avec une dose de charisme, si je peux le dire, avec une dose de charisme charismatique. Parce que je suis de ceux-là qui croient que les dons de l'esprit sont encore à l'œuvre, même aujourd'hui. J'ai déjà vu des miracles, j'ai déjà vu des prophéties être prononcées et avoir lieu, et les choses arriver. Dieu ne m'a jamais fait malheureusement la grâce d'avoir ces dons-là de parler en langue. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais ce que le pasteur Smith vient de dire, c'est vraiment une question. Ce n'est pas une colline sur laquelle on va mourir, n'est-ce pas? Dire la prière intelligemment ou pas avec des soupirs qu'on ne sait pas identifier des langues, ce n'est pas une colline sur laquelle on doit mourir. Mais je vais quand même nous rappeler de la conclusion ou de ce que notre communauté, la CBK, a décidé sur la question. Et nous connaissons tous l'ordre et la bienséance, où on dit que quand nous sommes en assemblée, si quelqu'un doit parler en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour faire quoi?
Interpréter.
Pour interpréter, ok? Ce n'est pas mal si tu es seul dans ta chambre de prière et que tu te retrouves en train de parler à Dieu d'une manière qui est inintelligible pour les autres. Parce que là, c'est une communion directe entre toi et Dieu. Je pense que 1 Corinthiens chapitre 14 explique tous ces aspects-là de la prière en langue. Donc, je vous encouragerai vraiment à aller lire ce chapitre, mais à vous rappeler aussi de la position que notre Église a et de savoir que ce n'est pas vraiment une colline sur laquelle nous devons mourir. Nous sommes appelés à prier en esprit, nous sommes appelés à prier intelligemment. L'un n'exclut pas l'autre, mais il y a des règles que chaque organisation a. N'est-ce pas? Voilà, on peut s'arrêter là pour la question, je pense.
Peut-être pour répondre à la deuxième sous-question, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul dit aspirer.
Oui.
Ok? Et vous remarquerez que le courant baptiste, quand même, diffère. Il y a de ceux qui sont cessationnistes et tout. Oui. Il y a de ceux-là qui sont quand même contumcionnistes et aspirer. S'il vous arrive par hasard que ça tombe sur vous, le président et papa Jérémy seront. Vous expliquer ce qui vous arrive. Mais sinon, aspirons, c'est ce que la Bible dit. Pour le reste, question de bienséance et d'ordre, les différentes tendances, les différentes confessions, pour question d'ordre et de bienséance, ont fixé des règles afin que l'un comme l'autre ne soit pas une occasion de chute dans le culte. Donc c'est un peu ça.
Merci beaucoup pour ces réponses. Je suis sûre qu'après culte, il y a des gens qui vont venir vous voir pour plus d'explications. Alors, nous allons maintenant procéder de la manière suivante.
Oui.
La sixième question, elle est adressée au pasteur Jérémy, la septième à vous, la huitième, et ainsi de suite.
Ça va.
Ok.
Merci de trancher cette affaire.
Merci.
Jouer le rôle de la Pologne.
Ok, maintenant, la sixième question. La prière. Ça part toujours de la prière.
Oui.
Est-il possible que la prière que nous adressons à Dieu réoriente notre destin? Il a donné une phrase de saint Augustin qui dit que l'homme ne forme pas son caractère lui-même, il est façonné par sa destinée. Alors, où est la place de nos prières dans la théorie de la prédestination?
Ok, ça, c'est une bonne question. Merci, ma soeur. Oui, papa Jérémy.
C'est une question qui arrache les cheveux, celle-là. est-il possible que la prière que nous adressons à Dieu réoriente notre destin? Il y a une instance dans la Bible, je pense que c'est dans 2 Rois chapitre 20, où le roi Ézéchias, je pense que c'était son nom, reçoit le prophète qui lui dit, voici ce que Dieu vient de me dire, que tu vas mourir. C'était une annonce que le prophète de Dieu est venu lui donner, n'est-ce pas, le prophète Ésaïe. Et Ézéchias était consterné, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers Dieu, il s'est humilié devant Dieu. Et avant même que le prophète ne sorte de sa demeure, n'est-ce pas, de son palais, Dieu donne au prophète un autre message. Il lui dit, va lui dire que je vais faire quoi? Que je vais augmenter 15 ans à sa vie. Est-ce que cette prière a réorienté ou a changé quelque chose dans la vie du roi? Personnellement, je crois que oui. Elle a changé quelque chose dans la vie du monsieur. Il y a aussi une autre instance dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, où il y a cet aveugle qui crie et qui dit, « Jésus, fils de David, hein, aie pitié de moi, n'est-ce pas? Aie pitié de moi. » C'était ça sa première prière. Et les gens l'empêchaient de s'approcher de Jésus. Et puis Jésus s'est retourné parce que le monsieur criait encore plus fort, n'est-ce pas? Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la question que je me pose souvent quand je regarde ces passages, je me dis, est-ce que Jésus n'était pas au courant que ce monsieur était aveugle? Ok? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Son premier cri, c'était, aie pitié de moi. Mais quand Jésus l'a arrêté, quand Jésus s'est arrêté, il s'est retourné vers lui, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il voulait que la prière de cette personne soit spécifique. Et le monsieur lui a répondu que je recouvre la vie. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Et il a recouvré sa vie. Donc je vois en cela que la souveraineté de Dieu, la prédestination ne nous empêche pas d'être spécifiques dans nos prières. Je suis de ceux-là qui croient que la prière change les choses. Et si nous voulons comprendre les choix humains par rapport à la souveraineté de Dieu, je vois toujours l'image d'un grand bateau. Hein. Imaginez-vous un grand bateau qui est en train de traverser une mer, n'est-ce pas? On peut la comparer à Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Nous savons que Dieu est au contrôle de l'histoire. Ce qui fait marcher ces bateaux-là, l'essence, les moteurs, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais à l'intérieur de ces bateaux-là, il y a des personnes qui sont nous, les humains, n'est-ce pas? Avec tous nos choix, avec toutes nos décisions, avec tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est vrai que le bateau a une destination. Dieu sait où il est en train d'amener le monde. Dieu sait qu'à la fin des temps, les justes seront avec lui. Ceux qui commettent le mal vont périr, n'est-ce pas? Et dans ces bateaux, il y a des ceux-là qui ont déjà eu la révélation que c'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire. C'est lui qui est en train de mener ces bateaux, c'est qui? C'est Dieu. Et ceux-là, ils seront dans ce bateau avec une attitude différente. Ils seront toujours en train de chercher à faire quoi? À s'aligner toujours avec celui qui est au contrôle. Amen. La prière nous permet de nous aligner à la souveraineté de Dieu. Si nous voulons que nos désirs, si nous voulons que nos ambitions puissent être alignées avec les plans que Dieu a ultimement pour le monde, nous devons être des personnes de prière. Nous devons être des personnes qui sont toujours connectées à son esprit. Et je vais conclure en disant cette parole de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9 et 10 qui dit que aucun œil n'a vu, aucun homme ne sait ce que Dieu, n'est-ce pas, a préparé. Mais par son esprit, il a révélé son plan à ceux qui l'aiment. Et comment est-ce que nous sommes en communion avec l'esprit de Dieu? C'est à travers des habitudes comme celle de la prière. C'est à travers la prière que quand nous sommes en communion avec l'esprit de Dieu, que nous sommes plus au courant du plan qu'il a ultimement pour le monde. Donc même si nous sommes dans ces bateaux que Dieu est en train de mener, soyons de ceux-là qui sont alignés avec la direction que Dieu et avec la direction vers laquelle Dieu est en train d'amener ce monde. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas?
Amen.
Ouais. C'est très clair. Amen. Et donc oui, la prière que nous adressons à Dieu peut permettre à ce que les choses soient réorientées. Quoi. Alors, ici, la 7e question. Le pasteur Smith nous a dit que la maturité consiste à s'évaluer par rapport à la personne de Christ et non de nos frères. Alors, qu'en est-il de personnes qui nous servent de modèle dans la foi, dans les business, les études? Quelle est leur place?
Leur place, merci pour la question, elle est très bonne. Leur place est juste après le modèle de Christ. C'est là qu'est la place de ceux qui nous servent de modèle. Si ceux qui nous servent de modèle n'ont pas pour repère Christ, alors ce sont des très mauvais modèles. Je répète, si ceux qui nous servent de modèle n'ont pas Christ pour repère, alors c'est des mauvais modèles. Quelle est leur place? Leur place est après Christ. Parce que Paul dit, je crois, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11e, le verset 1er, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis. » Ce qui veut dire que s'il n'est pas imitateur de Christ, il n'est pas digne d'être mon modèle, quel que soit le domaine de sa vocation. Que ce soit dans le business, si les valeurs qu'il prône ne sont pas les valeurs que Christ a enseignées, ce n'est pas mon modèle. Parce que vous vous rendrez compte qu'il a réussi grâce à la ruse, à la malignité, au mensonge et au meurtre. En quoi est-ce qu'il est pour nous un modèle si Christ n'est pas sa référence? Alors quelle est leur place? Leur place, c'est après Christ. Je ne suis un modèle pour le fidèle que dans la mesure où les fidèles voient Christ en moi, pas le pasteur Smith. Christ en moi doit servir, ma vie doit être une extension de la vie de Christ au milieu de frères. Je répète, ma vie doit être une extension de la vie de Christ au milieu de mes frères sur la terre. Je crois que c'est un
merci
peu
beaucoup, c'est vraiment une réponse claire et précise. Alors nous allons passer à la 8e question adressée au pasteur et à papa Jérémy. Il a été dit que nous devons nous évaluer par rapport à nous-mêmes et non par rapport aux autres. Comment faire une auto-évaluation et quels en sont les préalables?
Wow! Quels en sont les préalables? Les préalables d'une évaluation. Les préalables d'une évaluation, c'est les choses auxquelles on est appelé, n'est-ce pas? Les objectifs qu'on veut atteindre, les personnes qu'on veut devenir, ce sont les préalables. Moi, par rapport à cette image de moi que je me suis mise, enfin, que je me suis proposée, où est-ce que j'en suis? Quelle est la distance entre les Jérémies que je vais devenir dans 5 ans et celui d'aujourd'hui? Ça, c'est un préalable. Et pour nous, les chrétiens, nous avons lu dans, je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13, que nous qui avons les voiles dévoilées, n'est-ce pas, nous contemplons la gloire de Dieu et nous sommes transformés en l'image, n'est-ce pas, de Christ. Nous sommes en train d'être transformés. Je suis en train de paraphraser ces versets-là. Donc, nous avons déjà un préalable. Dieu veut nous transformer, n'est-ce pas? Il veut que nous soyons comme Christ en tout, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans nos familles, ainsi de suite. Et donc, ton évaluation doit avoir d'abord pour préalable l'objectif ou le but que tu t'es fixé. Et tu peux aussi te demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pris mieux qu'hier? Combien de fois est-ce que je suis en train de prier cette semaine? Est-ce que la prière pour moi, elle est plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Ou elle est devenue plus difficile? Ce sont juste des questions que tu dois te poser. Est-ce que je suis plus engagé dans les ministères que je ne l'étais avant? Ce sont des questions d'évaluation. Depuis qu'on fait des appels ici, il y a des personnes qui les entendent et ça passe, n'est-ce pas? C'est comme de l'eau qu'on verse sur la roche, ça passe, elle sèche, c'est tout. Mais il y a d'autres qui agissent en rapport de ces appels, où on vous dit, impliquez-vous dans le ministère, et on envoie des frères et des sœurs qui deviennent plus actifs et rejoignent ces ministères, les médias, ainsi de suite. Et je suis sûr que la personne qu'elles vont devenir en étant plus impliquées ne sera pas la même qu'elles sont en étant seulement des gens qui viennent à l'église le dimanche et s'asseoir sans rien faire. Donc ce sont des choses, il faut s'évaluer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en tant que chrétiens, que nous voulons être des personnes qui lisent la parole, des personnes de prière, des personnes qui sont impliquées dans la vie du corps. C'est maintenant à nous de nous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je lis plus la parole que je ne la lisais avant? Est-ce que je connais les Saintes Écritures mieux que je ne les connaissais il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans? C'est à vous de voir. Est-ce que, il y a quoi encore? J'ai parlé de la prière. Est-ce que j'ai prié plus régulièrement que je ne le faisais avant? Vous savez, on nous a même appris à prier en marchant. Parce qu'il est fort possible que tu arrives à un tel degré que tu es habitué à prier, que ton esprit se synchronise directement avec l'esprit de Christ, même quand tu marches. Que quand tu marches, tu dis, Seigneur, prends ta place. Même quand je suis en train d'aller ici, précède-moi. Pourquoi? Parce que ça vient avec cette habitude-là de commencer, de continuer, et tu arrives à un tel niveau où ça devient un réflexe automatique. Donc c'est à vous de vous comparer. Est-ce que j'ai prié 2 fois par jour depuis que j'ai commencé à suivre ces enseignements? Est-ce que j'ai prié 1 fois? Ou est-ce que j'ai déjà amélioré? J'ai prié tous les jours, régulièrement, pas seulement les dimanches quand nous sommes avec les frères. Est-ce que j'ai lu la parole? Est-ce que je la connais aujourd'hui mieux que je ne la connaissais hier? Est-ce que je suis plus impliqué dans la vie du corps ou je suis toujours la personne qui vient s'asseoir le dimanche et rentre sans même dire bonjour à 1 ou 2 frères? Parce que même dire bonjour, c'est une façon de se connecter aux autres membres. C'est une façon de renforcer notre communion fraternelle. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Papa Jérémy. Je me tourne vers vous, pasteur. Pratiquement, quelles sont les habitudes auxquelles nous devons mettre une certaine attention pour pouvoir progresser? Quelles sont ces habitudes saines dont vous parliez?
Quelles sont les habitudes saines? J'aimerais être encore sincère et dire que premièrement, tout dépend de la... Bon, dans un cadre général, je vous encourage, je nous encourage à mettre en pratique tout ce que la parole enseigne. Tout ce que la Bible recommande est une habitude saine. Je répète, tout ce que la Bible nous recommande de faire est une habitude saine que nous sommes appelés à développer. Mais dans un cas plus spécifique, il est important de connaître quel est l'idéal de Dieu pour notre vie en cette année. Lorsque vous connaissez les attentes de Dieu à votre égard pour une année ou pour un temps ou pour une période, vous demandez à Dieu, effectivement, de vous révéler ces choses. J'aimerais être plus clair. Dans la révélation de Dieu, de notre idéal ou de l'idéal qu'il a pour nous dans une année, se cache la révélation des bonnes habitudes à observer. Lorsque le Seigneur vous encourage durant une année à être fidèle, c'est qu'il veut combattre l'infidélité dont vous êtes esclave. Quand le Seigneur vous encourage à l'abstinence, c'est qu'il veut combattre cette faiblesse à toujours succomber à la tentation. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque le Seigneur dit « En cette année, je te bénirai financièrement », il est important de développer les bonnes habitudes liées à la bénédiction financière. Ce n'est pas que la prière, c'est la libéralité, les dons et les legs. Parce que vous remarquerez que c'est ce que l'homme sème qu'il moissonne. Vous sèmez la libéralité, la Bible dit que vous moissonnerez en abondance. C'est très clair. Proverbe dit « Ceux qui donnent avec libéralité s'enrichissent ». On n'a pas dit « Ceux qui prient abondamment ». On a dit « Ceux qui donnent avec libéralité s'enrichissent ». Quand le Seigneur vous encourage à une année florissante, il est important pour nous, à la lumière de ce que la Bible enseigne, de découvrir les principes qui peuvent nous permettre de vivre une année florissante. Dans la communion fraternelle, la clé est mise sur l'importance des connexions. Comme disait le pasteur Jérémie, par le simple fait de se saluer à la fin du culte, c'est une connexion qui s'établit parce que vous ne savez pas qui vous trouverez derrière un grand bureau en train de recevoir votre CV. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de qui est votre CT à l'université. Mais le frère qui vient, par exemple, qui a l'air aussi mince que moi et le pasteur Jérémie, mais plus lui, vous le dénigrez et vous ne voulez pas le saluer. Et vous vous rendrez compte que c'est lui, peut-être, l'assistant le plus intime d'un de professeurs. Et vous vous rendrez compte que vous aviez raté l'occasion de le saluer parce que là, vous trouvez que vous auriez mieux fait de le faire car il aurait été pour vous une grande bénédiction si vous entreteniez déjà une certaine proximité. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la prière? Parce que la prière est un des meilleurs moyens d'être en intimité avec Dieu. Si et seulement si nous développons l'écoute, le discernement et l'obéissance à la voix de Dieu, il nous est impossible de connaître le chèque selon la définition du dictionnaire du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Alors c'est vraiment ça. Dans un cadre général, appliquons tout ce que la Bible enseigne, car c'est à cela qu'est attaché le succès et la réussite d'après Josué 1:8. Mais dans un cadre spécifique, le Seigneur aussi donne des directives et des orientations précises.
Merci beaucoup, pasteur. Voici la dernière question, enfin. Je prie et je dis, Seigneur, que cet aveugle voit. Et le Seigneur me dit, il va voir. Maintenant, après, dois-je continuer à prier? Le Seigneur m'a déjà dit qu'il va voir. Alors, qu'est-ce que je vais encore dire à Dieu? Je vais encore dire, Seigneur, que cet aveugle voit, ou qu'est-ce que je vais dire?
Waouh, c'est une bonne question aussi. Je pense qu'elle va aussi dans la compréhension de la prière pour nous en tant que croyants. Parce que la prière a plusieurs éléments, comme le pasteur Smith l'a dit. Imaginez-vous un père avec qui vous communiquez seulement quand vous avez besoin de quelque chose. C'est une relation transactionnelle où le père devient comme un distributeur où on va seulement mettre sa carte pour recevoir des choses. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Parce que la prière n'est pas seulement pour présenter nos requêtes. La prière a des aspects de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. La prière que tu pourrais faire après avoir eu confirmation que l'aveugle va voir, c'est de dire merci Seigneur parce que cet aveugle va voir. Il y a l'aspect de la reconnaissance. La prière a l'aspect de la repentance où on vient devant Dieu pour dire Seigneur, en tout cas je reconnais que ici je n'ai pas marché selon tes voies, tes décrets. Donc la prière a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas la limiter rien qu'aux demandes où on s'est dit ok, j'ai prié seulement pour que Dieu fasse ça et après qu'est-ce que je vais dire. La prière c'est un fil, c'est une conversation que nous avons avec Dieu. J'étais en train de lire au début de cette année un livre sur, on appelle ça « Développer une vie intérieure ». Et l'auteur de ce livre parlait du fait que même dans la prière, on peut avoir des moments de silence pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Parce que la prière est une conversation. La prière n'est pas seulement nous venir et présenter une liste et dire « Dieu, je veux ça, 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 ça ». Dieu n'est pas comme ça. Dieu est relationnel et pas transactionnel. Il faut d'abord que nous soyons en communion avec lui, que nous connaissons quel est son plan, quelles sont les choses auxquelles il nous appelle pour maintenant aligner, demander tout ce que nous voulons et il va nous l'accorder. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et donc, j'ai dit que les éléments essentiels de la prière, ils sont même dans la prière que Christ nous a donnée en Matthieu chapitre 6. Il y a la révérence. Ça veut dire louer Dieu. Il y a des prières de louange où on dit « Seigneur, tu es grand, tu es bon, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons combien nous sommes petits face à une telle grandeur. » Il y a la reconnaissance pour ce que Dieu a fait, ce qu'il continue à faire et ce qu'il va faire. C'est un autre grand élément de la prière. Il y a la repentance où nous reconnaissons que Dieu, nous avons toujours besoin de ta grâce. Aide-nous à nous tourner toujours vers toi parce qu'il y a des éléments de notre vie que nous voulons encore une fois te soumettre. Il y a des habitudes que nous voulons encore une fois lâcher. Ce n'est pas, tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours des choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Et nos prières, est-ce qu'elles contiennent ces éléments-là? Il y a la requête maintenant où Dieu nous donne aussi cette permission de dire « Donne-nous notre pain quotidien. » Donc la prière a beaucoup d'éléments et nous ne devons pas seulement la limiter à une transaction. C'est vraiment une conversation où tu viens devant ton Père et tu lui dis tout ce qui est sur ton cœur. Et tu reconnais aussi que c'est mon Père et je le respecte et le révère comme un Père.
Amen. Voilà.
Merci beaucoup. Nous allons acclamer le Seigneur pour tout ce qui a été dit.
Si je peux ajouter.
Très fort et très fort encore.
Oui, je peux.
Oui,
vous pouvez. Donc, en attendant la réponse. En attendant la réponse. Depuis que Dieu a confirmé que l'aveugle sera guéri, jusqu'au moment où il va être guéri, qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu à propos de cette situation?
Merci beaucoup. Pardonne-moi de vous avoir interrompu. Vous étiez en train de nous éveiller ou vous étiez en train de clôturer l'instant?
Oui, il semblerait qu'il y a des gens qui dormaient
non,
déjà.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer celui qui vit à jamais? Regarde ton voisin et dis-lui, développe de saines habitudes. Car à cela est attachée une grande récompense. Est-ce que tu peux acclamer pendant ce temps tu parles à ton voisin? Dis à ton voisin, développant de saines habitudes, car à cela est attachée de très grandes récompenses. Est-ce que je parle à une jeunesse ou je parle à un culte de vieux? Si c'est à la jeunesse que je parle, acclame le Seigneur et pousse le cri de joie. Car s'il a décidé de nous parler de ces choses, c'est parce qu'il s'est décidé de nous faire du bien et de nous amener à moissonner le fruit ou les résultats des semences que nous avons jetées il y a des années. Si les saints sont avec moi, vous direz trois fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pendant qu'on reprend nos places? Alléluia.
Non, mais vous êtes meilleur que moi, il fallait que ce soit vous.
Non, ma soeur, je crois que nous sommes juste complémentaires. Vous avez initié la chose et je l'ai exécutée avec vous.
Amen.
Je tiens à bénir le Seigneur pour la présence de mon épouse. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être là. Mais depuis qu'elle est là, j'ai comme un courant d'air frais qui coule derrière mon oreille. Permettez-moi de le dire, il a fait lui, hein? Vous n'avez rien dit. Permettez-moi de dire aussi merci à mon épouse qui est là. Hilary n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle était occupée à faire la sieste. C'est une responsabilité lourde de sa part. Siester à une heure précise requiert beaucoup de discipline. Que Dieu bénisse Hilary pour sa discipline et cette bonne habitude. Ça commence tôt, papa. Alors, pour répondre à cette question, je suis encore une fois de plus d'accord avec le pasteur Jérémy. Il m'est béni énormément. La prochaine fois, je viendrai exclusivement pour vous écouter. Il y a beaucoup à écrire.
Et l'assemblée est formidable, mon Dieu, vous êtes spontané. On rencontre l'impression que vous étiez en train de dormir. À peine on dit acclamer, vous vous acclamez. Que Dieu vous garde aussi, aussi spirituel. J'aime bien ce que Christ dit à Pierre. Dans Matthieu 16, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il va plus loin, il dit, je te donnerai le clé du royaume. Promesse, il lui révèle carrément la destinée de Pierre, n'est-ce pas? Mais Christ savait que le même Pierre allait le renier. Quand il prie dans Jean 17, il prie pour tous ses disciples et il prie pour leur unité. Notez que Judas aussi était là. Il a prié pour l'unité des disciples et Judas était là. Christ savait qu'un homme allait se soustraire de ce groupe. Et il savait que Pierre allait le trahir. Or, à ce même Pierre, il dit, je te donnerai le clé du royaume. Christ savait que c'est ce qui allait arriver. Mais ce que j'aime, c'est que dans Matthieu, je crois le chapitre 25, Christ dit à Pierre, il annonce aux disciples que je veux mourir et tout, je serai livré. Pierre se lève et dit à Christ, même si tous te quittent, moi, je resterai. Nzunzu. Le docteur Rémy aime bien dire, il était sincère, mais sincèrement faux. Parce que lorsque la tentation est arrivée, nous connaissons tous comment il a réagi. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Là n'est pas le problème. Le problème est lorsque Christ dit. Christ commence par les censurer en disant, tu vas me trahir, Pierre, laisse tomber. Mais Christ savait que le poids de la culpabilité pèse à telle enceinte que Pierre peut se perdre. Qu'est-ce que Christ dit? Le diable te réclame pour te cribler comme du froment, mais moi, je priais pour toi. L'intrigue, c'est que le sujet de la prière de Christ n'est pas que Pierre échappe à la tentation, n'est pas que Pierre ne tombe pas, mais que sa foi ne défaille pas, même quand il tomberait. Le plus difficile quand on a la confirmation d'un exaucement, c'est de vivre dans l'attitude de la foi que cet exaucement arrivera. Parce que Christ dit, je crois dans Marc 11, 20 à 21, il dit tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez que vous l'avez reçu, sans douter dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. On reçoit l'exaucement par la foi, mais l'on possède les promesses par la persévérance. Qui veut posséder doit persévérer. La question maintenant, comment prier? Prie pour ta foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, quand on cherche, ce qui veut dire que c'est toute une habitude, c'est un exercice qui n'est pas facile. Il faut de la persévérance dans les recherches. Mais il est plus facile de persévérer dans les recherches d'une chose dont on est conscient qu'elle existe. Si on ose nous dire qu'il y a du pétrole sous ce temple, frère, Moutahama, je vous dis, si on ose nous dire qu'il y a de l'or sous ce temple, nous serons prêts à démolir ce temple, creuser cet or, parce que nous aurons la ferme conviction que même Bédégel, on pourra acheter. C'est la même chose avec la foi et la prière. Il nous a dit qu'il allait le faire, mais nous n'allons pas nous arrêter de demander à ce que notre foi reste ferme jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Que Dieu nous bénisse.
Wow. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu présent merci. À l'invitation merci. De Dieu. Et nous allons les encourager pendant qu'ils sont en train de regagner leur place. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort encore.